Quand nous venons de chanter un cantique, on voit quatre cantiques maintenant, et nous venons de nous lever les voix tous ensemble, et ça fait du bien. Ça fait du bien quand nous louons Dieu avec les paroles de nos cantiques, et quand nous réfléchissons à la signification de ces cantiques, c'est quand même touchant. C'est touchant parce que les cantiques que nous chantons souvent dans l'Église, la plupart, viennent presque directement des Écritures. Presque directement des Écritures, sinon presque directement de certains psaumes. Si je vous citais « Confie-toi en Dieu et admire-le », est-ce que ça vous dit quelque chose? Nous chantons le cantique 16, qui en fait nous dit « Confie-toi en Dieu et admire-le ». Mais est-ce que nous sommes au courant de d'où ça vient, cette expression, cette exhortation même? En fait, cette expression vient de Psaume 4. Psaume 4. Et moi, j'étais en train d'étudier un sujet cette semaine, et puis le Psaume 3 et 4, moi, j'étais inspiré d'aller plus loin dans mon étude des psaumes 3 et 4, et c'est ça qui a produit aujourd'hui ce sermon. Parce que ces psaumes 3 et 4 représentent deux psaumes qui sont, en fait, qui sont prophétiques vis-à-vis du Messie, mais qui sont également des prières d'un roi qui était persécuté, qui était en plein milieu de sa persécution, même par des personnes de sa famille et des personnes de ses propres armées, de ses propres capitaines. Ils étaient en train de persécuter pour faire des tentatives de prendre le trône sur Israël, sur tout Israël. Donc, même si souvent nous avons un lien entre les psaumes 3 et 4 et le Messie, Jésus-Christ, nous avons également un peu de arrière-plan pour l'histoire de ce qui se passe lorsque ces ces psaumes sont chantés. Et nous pouvons réfléchir, en lisant ces deux psaumes, nous pouvons réfléchir à l'un des moments les plus difficiles de la vie de David. C'est en fait peut-être considéré peut-être plus qu'un moment, c'est après son péché avec Bathsheba. Mais après, et c'est plus loin, c'est vers la fin de son règne sur Israël. Mais c'est un moment où même David était obligé de quitter Jérusalem, d'aller dans le désert et d'attendre l'intervention de Dieu. D'attendre que Dieu s'arrange pour que les choses se remettent en place, pour lui puisse rentrer et redevenir, avoir son trône. Et donc, il a vécu, David, avec beaucoup de poursuites, beaucoup de persécutions pendant sa vie. Il était, à l'époque de Saül, il était en train de toujours fuir devant les armées de Saül, qui le poursuivaient, parce qu'il savait, Saül, que David a été oint par Dieu pour devenir roi. Il voulait l'empêcher de devenir roi. Et David circulait dans le désert, à l'extérieur, pour justement fuir Saül. Même en rencontrant Saül, il ne voulait pas. Il était à risque d'être tué. Mais ici, dans 2 Samuel, c'est le contexte de ces deux psaumes, 3 et 4. Donc, 2 Samuel, lisons d'abord le contexte et puis on va revenir sur les psaumes 3 et 4. Peut-être avec le temps que j'ai pris pour expliquer ces choses, vous avez déjà lu les psaumes 3 et 4, mais nous avons besoin d'y revenir quand même plus tard. 2 Samuel 15. Donc, nous avons cet homme qui s'appelle Absalom, et il est fils de David, fils du roi, l'un des trois fils cette union. Nous avons Absalom, maintenant, qui essaie de prendre le pouvoir. Il essaie de prendre même le trône de son père. Et, en fait, il est... il a l'appui aussi de Joab, un guerrier, un général, très intelligent, quelqu'un avec beaucoup de zèle, mais qui avait aussi des intentions pour lui-même. Et on voit en 2 Samuel 14, juste pour résumer, que Absalom profite de Joab pour s'approcher de David quand il était éloigné du roi. Et puis, ses servants ont brûlé le terre de Joab. Et puis, Joab est venu lui voir, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il a indiqué à Joab d'aller auprès du roi et puis de traiter ces choses pour que lui, Absalom, puisse voir la face du roi. Et puis, juste après, au début du chapitre 15, nous avons le dévoilement de ce début de plan pour prendre le trône. C'est intéressant la façon avec laquelle Absalom a procédé petit à petit. Il a pris à peu près 4 ans pour préparer cet attentat, si vous voulez, cette prise de pouvoir. Et donc, ce coup, si vous voulez. Et donc, nous avons un peu le résumé de cette histoire ici, dans 2 Samuel 15. Donc, disons, à partir du début de 2 Samuel 15, après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi, c'était David le roi, donc à chaque fois qu'ils avaient une contestation pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu ?» Lorsqu'il avait répondu « Je suis de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Donc il intercepte un petit peu les personnes de chaque tribu. Il s'intéressait de leur lignage, d'où ils viennent, parce que voilà, si on va s'approcher du roi, peut-être on était déjà l'ancien dans cette tribu, on était quelqu'un qui portait quelque chose pour avoir un jugement auprès du roi. Ça monte la décision, c'est comme le cours suprême un petit peu, on ne prend pas n'importe quelle chose jusqu'au roi. Donc ce sont des personnes de position qui étaient sur la route, si vous voulez, qui étaient en train d'aller auprès du roi. Et si vous voulez, pour imaginer, Absalom met sa petite cabane ici avec un panneau, vient ici pour les conseils. C'est un peu ça ce qu'il était en train de faire. N'allez pas vers le roi, mais viens me voir, c'est gratuit les conseils. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Verset 4, Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. » C'était le rôle du roi de faire ces choses. Donc il présume qu'il est capable de le faire. Et il dit un petit peu, « Alors David est trop occupé. Il n'y a personne dans la cour de David, qui va vous écouter. Moi, je peux vous écouter. Je suis comme un désigné du roi. » Donc c'était des mensonges, c'était prétendu. Et puis verset 5, et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Ouh, il essaye de chaque fois. C'est moins le jugement qui va rendre, plus une certaine. C'est comme le roi soleil en France. Il faisait venir tous les personnes des provinces de la France pour qu'il habite à Versailles. Et pour qu'eux, ils profitent de cette majesté du roi et ils pouvaient donner ou ne pas donner son accord sur plusieurs projets qu'eux, ils avaient. Mais c'est l'histoire de la France, désolé. Verset 6, Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Donc, ça a réussi à gagner le cœur des gens d'Israël. Voilà, verset 7, au bout de 40 ans, plutôt ce qu'on dit, c'est que ce processus n'est pas au bout de 40 ans, avec la traduction, c'est pas 40 ans qu'il a fait ça, mais Absalom, de toute façon, dit au roi, permet que j'aille à Hébron, l'ancien capital, pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel, car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Geshur en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le roi lui dit, va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Et donc, on voit tout de suite le changement qui ne tient pas que parole, parce qu'au verset 10, il envoie les espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire ces choses. Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. Donc, il voulait établir un deuxième capital pour lui à Hébron, l'ancien capital. Donc, voilà. David efface, il a même parlé avec ce rebelle, son fils, et il a donné sa, entre guillemets, sa bénédiction un petit peu de ce qu'il faisait. Des fois, on dit que David était plus âgé dans les commentaires. Ils disent que David lâchait un petit peu sa prise de pouvoir, qu'il ne faisait pas attention autant qu'avant. Mais ça, ce sont juste des théories. Mais que ça soit sa malcompréhension ou sa manque de conscience de ce complot, le résultat est pareil. Absalom a été permis d'avoir une certaine liberté dans le pays. Il est venu, il était devenu quelqu'un de renom. Il était charmant pour les gens. Les gens faisaient confiance dans ses jugements. Ils pensaient qu'il allait régner longtemps en Israël. Et lui, il avait beaucoup travaillé pour obtenir cette, si vous voulez, cette opinion publique. Est-ce que ça vous fait penser aujourd'hui de certains efforts des hommes ou des femmes de politique qui voudraient une certaine réputation pour faire de bonnes choses? Donc, ils vont aller embrasser des bébés, serrer les mains des gens, avoir les photos pour avoir cette réputation dans les médias, n'est-ce pas? Et c'est tout à fait pour gagner, pour augmenter leur propre réputation dans le pays. Même si les gens peuvent aussi être, c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont sincères dans ces positions, mais c'est prouvé, c'est déjà, il y a des entreprises qui programment ce type de choses. L'opinion publique est manipulée par les médias dans cette façon. Donc, ça ne date pas de l'année dernière, hein. Ça date d'il y a très longtemps, avant, même avant Jésus-Christ. Les gens, les hommes, les femmes font, et c'est ça qui est très intéressant, que l'homme n'arrive pas à changer ses mauvaises habitudes dans ce sens-là. Donc, on est encore dans cette histoire très intéressante, et nous avons Absalom qui commence à gagner un petit peu plus de réputation, qui commence à avoir un peu de la confiance ou une certaine permission du roi, et puis il va profiter, il prépare la piège pour le moment propice. Donc, ce qu'il a fait n'était pas biblique, si vous voulez, ce n'était pas quelque chose de juste qu'il a fait pour obtenir cette réputation. Nous avons lu les versets 3 et 4, et la réaction des gens est soulignée pour démontrer que, oui, il voulait absolument obtenir un certain renom dans le pays, à la place, au dépit, si vous voulez, de la réputation de David. Et donc, nous avons quand même une leçon dans ça, dans nos propres pratiques, et pourquoi on fait certaines choses ou on évite certaines choses. Mais c'est une question de caractère auprès de Absalom. Et nous savons, avant le développement de cette histoire, nous savons que ses intentions ne sont pas les meilleures. En fait, ils ne sont pas bons du tout. Donc, nous avons plusieurs leçons de lui, mais nous avons maintenant besoin de... Ça, c'est le contexte de ce qui se passe. Et au verset 13, du chapitre 15, nous avons la fuite de David. Donc, qu'est-ce que David fait face à cette rébellion qui est en train de se préparer, qui commence à voir venir? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va défendre sa ville? Est-ce qu'il va faire un combat autour de Jérusalem? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est indiqué au verset 14, David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. Et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » David avait un cœur pour Dieu, mais aussi son cœur était disposé pour le peuple aussi. Il ne voulait pas voir la ruine de sa ville juste pour rester au pouvoir. Et on arrive maintenant au premier exemple de vraiment ce que ce psaume et ce cantique nous dit, c'est « Confie-toi en Dieu et admire-le ». David commence à nous démontrer, et il va nous démontrer plusieurs fois dans le chapitre suivant, dans les versets, les passages suivants, que lui, il met sa confiance en Dieu et il met cette situation entre les mains de Dieu. C'est lui son appui, c'est lui sa force. Et David nous démontre un exemple incroyable pour un roi qui avait tout à fait le choix de faire autrement. Mais lui, c'est un roi qui s'est décidé, on va quitter la ville, et si Dieu intervient, alors c'est lui qui va décider. Donc, verset 17, le roi sortit et tout le peuple le suivait, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison, tous les serviteurs, et puis ça liste les différentes personnes, les Kérétiens, et tous les Kérétiens passèrent à ses côtés, et tous les Gathiens, donc les Philistiens, les personnes de Gath sont des Philistines, donc au nombre de 600 hommes venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Et puis intéressant comme histoire, ici une partie parenthèse, le roi dit au verset 19, le roi dit à Ittai de Gath, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous ?» Donc il voit cette force très puissante, les Philistins étaient reconnus pour leur force aussi, et sa garde était composée de Philistins. Et il dit à ce groupe puissant, pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Parce qu'eux, ils n'avaient pas d'intérêt dans le trône d'Israël, et ils voulaient venir avec David. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui, je te ferai errer avec nous, ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et amène tes frères avec toi, que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Donc David n'a pas profité de ces gens et de leur récente contribution pour leur ordonner ou pour leur demander lui-même de lutter avec lui contre Absalom. Il a dit, vous n'avez pas part ici et je vous laisse partir si vous voulez. Mais qu'est-ce que Ittai veut dire? Verset 21, Ittai répondit au roi et dit, « L'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. » Donc, au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. David dit alors à Ittai, « Va, passe. » Et Ittai de Gath passa avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Donc, c'est eux qui ont choisi de démontrer leur royauté pour David, leur appréciation pour David. Et c'est très intéressant aussi au verset 21 qui cite le nom de l'Éternel. Il prononce que c'est Dieu, c'est l'Éternel qui est vivant et puis le roi est aussi vivant. Donc, ils étaient fidèles à David, même dans cette situation où ils auraient pu dire, « Ok, nous, on ne va pas prendre le risque d'être attaqués par les armées d'Absalom. On va s'en aller. » Mais eux, ils ont dit, « Non, on reste auprès de toi. » Et puis voilà, nous avons quelques réponses déjà pour nous montrer jusqu'à quel point David met sa confiance en Dieu. Encore, il y a un exemple ici au chapitre 16, au début du chapitre 16. Avant d'y aller, j'ai oublié de citer le verset 25 ici du chapitre 15, parce que c'est important. Le roi dit à Tzadok, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Parce que les Lévites portaient l'arche de l'Alliance de Dieu pour venir avec David, pour l'accompagner avec. Il dit, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Il laisse ce choix entre les mains de l'Éternel. Même l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance de Dieu, très fort symbole de la présence de Dieu pour Israël, il dit, si Dieu le veut, il va protéger l'arche, il va protéger les Lévites, le temple et tout. Et moi, après, pas le temple, mais il va protéger Jérusalem pour moi et il va me protéger pour que je revienne. Mais sinon, c'est son choix à lui. Donc, je trouve ce verset très inspirant, très touchant, parce que jusqu'à ce point-là, il renvoie Tzadok avec l'arche de Dieu, qui est un fort symbole de l'aide, de la puissance de Dieu. Mais il ne lâche pas sa relation avec Dieu. Dieu est toujours avec lui, il est toujours en train de l'aider, mais il n'a pas besoin de reporter avec lui toutes ces choses. Est-ce qu'on pense peut-être qu'il ne voulait pas perturber encore une fois la ville de Jérusalem, le pays même? Qu'est-ce que les gens vont penser si l'arche part avec lui dans le désert? Il y a beaucoup d'implications là-dessus. Puis dans ces 26, « Mais s'il dit, je ne prends pas point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce que lui semblera bon. » Il parle de l'Éternel. Le roi dit encore au sacrificateur Tzadok, « Comprends-tu? Retourne en pays, dans la ville, avec Achimath, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abithar, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert, jusqu'à ce que s'il m'arrive des nouvelles de votre part. » Ainsi, Tzadok et Abithar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, et ils y restèrent. Très intéressant, ce choix. Et il mettait toutes ces choses entre les mains de l'Éternel. Il savait que l'Éternel l'accompagnerait lui-même et que s'il ne protégeait pas David, que c'était son choix. Donc vraiment, un homme qui avait beaucoup grandi, si vous voulez, parce que juste quelques chapitres avant, c'est son adultère, au chapitre 11, et puis on voit maintenant vers la fin de son règne qu'il fait ses choix. Donc, qu'est-ce que nous avons comme parallèle? Nous avons 2 Samuel 16, verset 9, quelque chose qui nous démontre aussi un certain caractère, des traits de caractère de David qui devraient nous parler, qui devraient nous rappeler de notre caractère, notre réaction quand nous avons des épreuves, quand nous faisons face même à des gens qui voudraient nous attaquer, nous décéder, nous séduire. Est-ce que nous mettons notre confiance entre les mains de l'Éternel comme David a fait? Même notre vie, qu'est-ce que nous pouvons donner à l'Éternel plus que notre vie? Donc 2 Samuel 16, maintenant au verset... on peut commencer au verset 5. David était arrivé jusqu'à Borim, et voici, sorti de là, un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança et prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Verset 7, Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. Dans un sens, il avait raison qu'il était homme de sang. Même Dieu le déclare, même c'était connu que David était un homme de guerre. C'est pour ça que Dieu ne l'a pas demandé de construire sa maison. C'était son fils Salomon qui l'a fait. Puis, verset 8, l'Éternel, ça continue ces mots. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül dont tu occupais le trône. Donc, l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom. Donc, il proclame le nouveau roi sur Israël, cette personne qui va maudire David et ses troupes. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Donc, il profite de ce retrait dans le désert, pour lancer des pierres et lancer des paroles d'attaque. Et puis, ce n'est pas le seul. Verset 9, alors, Abishai, fils de Tseruja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur ? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Que puis-je faire avec vous, fils de Tseruja ? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, « Maudit David. » Quelle réaction, hein ? Quelle réaction ? Si maudit, c'est l'Éternel peut-être, c'est que l'Éternel lui a dit, « Maudit David. » Qui donc lui dira, « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles. On veut à ma vie, à plus forte raison, ce Benjamite, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. » Donc, David était prêt à accepter ses attaques pour, avec patience, avec une certaine miséricorde, pour attendre l'intervention de Dieu. Dieu l'a laissé passer, il a laissé passer ces choses, et il n'a pas empêché que ces gens prononcent ces mots. Il aurait pu donner passage à David sans problème jusqu'à la traversée du Jourdain et dans le désert. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Nous avons un autre exemple de quelqu'un qui a fait un peu la même chose. Il n'a pas laissé un moment comme ceci lui détraire ou distraire de sa tâche, de sa confiance dans l'Éternel. Nous avons l'exemple de deux rois, chapitre 18. Deux rois. Gardons notre place ici en 2 Samuel. Et nous avons deux rois 18. Un exemple assez frappant qui me touche aussi, parce que nous avons, après la prise d'Israël par les armées assyriennes, nous avons ce serviteur du roi d'Assyrie qui va proclamer des mensonges et il va jurer contre le roi à cette époque. Donc, 2 rois 18, c'est dans 1 roi. 2 rois 18, nous avons l'histoire ici de Ézéchias. Et nous avons l'armée du roi assyrien, Sennacherib, qui envoie son serviteur, qui avait déjà pris le nord du pays, et ils ont détruit les hauts lieux dans ce pays. Ils ont pris, comme nous le savons tous, en captivité, ils ont dispersé les tribus du nord, les 10 tribus du nord, et ils ont remplacé le peuple avec des Assyriens, des personnes d'ailleurs, et ils ont repeuplé les terres. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils ont envoyé son Rabshaké, un serviteur de l'armée, qui dit à Ézéchias, au verset 19 du chapitre 18, il dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies ? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Donc, il questionne le roi pour son manque de loyauté vers Assyrie. Et il dit, à qui mets-tu la confiance? Où est ta confiance? Et il pensait que sa confiance était avec Pharaon et le roi d'Égypte. Voici au verset 21, « Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main et de quiconque s'appuie dessus. » Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Mais il n'avait pas raison, le Rabshakeh. Il n'avait pas raison. Ézéchias faisait confiance en Dieu. Il a mis sa confiance en Dieu. Et petit à petit, avec cette histoire ici, cet exemple parallèle, nous voyons plusieurs reprises la personne qui maudit le roi d'Israël, le roi de Juda, par contre, à cette époque, il maudit le peuple, il maudit ces choses, il dit même au verset 22, c'est intéressant, « Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. » Et pour mettre en parenthèse, il avait compris ça de la partie de l'Israël du Nord, qui avait déjà rébellé contre Dieu, et ils avaient installé d'autres dieux, bien sûr. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. Maintenant, faites une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir, c'est des cavaliers pour les monter. Il offre un cadeau et il insulte en même temps. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui était envoyé pour écraser ce roi, pour gagner sa loyauté, son tribut pour le roi d'Assyrie. C'est comme ça que l'intimidation qu'ils ont utilisée. Et dans le même cas ici, ce qui s'est passé finalement, c'est que Dieu a intervenu pour eux, il a détruit les armées et il a donné un peu plus de temps à vivre aussi à Ézéchias qui souffrait aussi de maladie. Et puis le royaume de Juda, malgré son éventuelle prise, c'était pas le bon moment pour la captivité du sud. Ça serait plus tard par les Babyloniens. Et donc David et Ézéchias, même face à ces insultes, et même face à ces gens qui essayaient de les écraser, ils mettaient leur confiance en Dieu. Donc, nous revenons maintenant à 2 Samuel 15 pour continuer ces choses. C'est un point pour se souvenir de comment Absalom s'est servi de l'opinion publique et des mensonges envers les autres pour profiter, pour atteindre sa position. Donc, je répète un petit peu, mais 2 Samuel 15, et David ne voulait pas faire ça, ne procédait pas pareil. Il procédait tout à fait différemment avec la confiance en Dieu. Et donc, la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est parce que si on ne met pas d'abord la confiance en Dieu, qu'est-ce que ça fait à nos propres actions, à nos propres efforts? Est-ce que si nous mettons confiance en Dieu, nos actions, nos efforts seront différents de ce que nous faisons quand nous essayons de mettre la confiance en nous-mêmes ou dans quelqu'un d'autre? Si nous ne mettons pas la confiance en Dieu, nous risquons de prendre des actions qui ne correspondent pas du tout avec la volonté de Dieu. Parce que c'est la logique humaine, ce sont le raisonnement humain qui s'installe, les émotions. On est porté à faire des choses pour essayer de résoudre les problèmes nous-mêmes, au lieu de mettre la confiance entre les mains de l'Éternel, lui laisser la possibilité d'intervenir. Et donc, dans tous ces cas, nous voyons un homme qui profite ou qui a été béni parce qu'il a mis sa confiance dans l'Éternel. Souvent, la tendance humaine, c'est de traiter, de résoudre nos propres problèmes nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est d'essayer, c'est moi qui va s'en occuper. Et finalement, en disant ça, des fois, on peut empêcher, dans un sens, l'intervention de Dieu. Parce qu'on commence avec notre propre volonté pour essayer de résoudre le problème sans consulter Dieu, sans prier, sans demander son intervention, sans la patience pour attendre le moment propice que lui décide d'intervenir. Est-ce que nous pouvons dire que son intervention, son choix d'intervention, le moment que l'Éternel choisit d'intervenir, c'est mieux que le moment que nous aurions pris? C'est toujours mieux que l'Éternel soit l'inspiration pour nos actions. Et si nous mettons notre confiance en lui, nous gagnons aussi une stabilité, nous gagnons de la confiance en lui par nous-mêmes, et notre attitude, notre caractère est complètement différent et produit des fruits complètement différents de ce que nous produisons quand nous sommes éloignés de Dieu et quand nous imitons le monde. Et donc ici, 2 Samuel, chapitre 15, j'avais noté le verset 13, juste pour rappel. Quelqu'un vint informer David et lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Donc je voulais souligner ici que ce n'était pas sa volonté, David. David, il agissait d'après la volonté de Dieu, parce qu'il mettait sa confiance en Dieu. Il n'était pas attristé, si vous voulez, juste de perdre le cœur des hommes d'Israël. Sa fidélité envers l'Éternel est restée constante dans ce moment de sa vie. Et donc, malgré l'opinion publique qui est arrivée. Et encore une fois, il avait le cœur pour sa ville, pour son peuple, et ses actions, comme il mettait la confiance en Dieu et comme il avait le cœur pour son peuple, ses actions ont été différentes, ont été meilleures et ont produit de meilleurs résultats. Donc voilà, 2 Samuel 17 confirme le bon choix de David que nous avons lu dans le chapitre 15. 2 Samuel 17 et le verset 13. Nous commençons au verset 12. Nous arriverons à lui en quelque lieu que nous le trouvions, et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol, et pas un n'échappera, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. Ça, c'était le complot d'Absalom. Et il n'avait pas considéré les autres. Et la vie des autres. Ils allaient complètement détruire ceux qui étaient au soutien de David. Verset 13, s'il se retire dans une ville, s'il était resté à Jérusalem. Et ici, ils disent, s'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville et nous le traînerons au torrent jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. Absalom et tous les gens d'Israël dirent le conseil de Hushaï, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Architophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Architophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Donc, on voit l'intervention de Dieu ici, qui commence, mais on voit aussi le complot jusqu'à ce point de ne pas du tout considérer les effets secondaires, les pertes, les personnes. Et puis David, c'était à l'opposé. Donc encore un exemple de quelqu'un qui poursuit le trône pour lui-même, pour sa propre gloire, et David qui était serviteur de Dieu. Et donc, nous avons plusieurs exemples ici qui démontre la loyauté de Dieu envers David et la loyauté, la fidélité de David envers Dieu. Et ce que nous lisons, c'est que Dieu intervient pour David. Plusieurs fois, Dieu intervient aussi pour ses serviteurs, pour que son plan soit accompli, pour que sa volonté finalement soit faite. Nous pouvons continuer à lire quelques exemples en 2 Samuel 18 maintenant, après, nous disons, la mort d'Absalom. 2 Samuel 18 et le verset 12. Mais cet homme, on peut commencer au verset 9 pour le contexte. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébrinthe et la tête d'Absalom fut prise dans le térébrinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, un mauvais choix, mais il vint dire à Joab, voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébrinthe. Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, tu l'as vu, pourquoi donc tu n'as pas, ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 sicles d'argent et une ceinture. Et donc, nous avons maintenant une perspective sur la motivation de Joab et la violence de Joab. Qui va faire, on sait, il va terminer la vie d'Absalom contre le commandement du roi. Donc, un homme qui agit par le sang, qui agit par les émotions, par sa propre gloire. Et qu'est-ce que ça donne? Ça aurait pu terminer différemment. Absalom aurait pu continuer à vivre. David l'aurait permis. Après, les gens se questionnent sur pourquoi David l'aurait permis. Ils ne comprennent pas cette approche. Mais on voit ici, quand il reçoit cette nouvelle, au chapitre 19, verset 1, on vient de dire à Joab, « Voici le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. Et la victoire, ce jour-là, fut changée en deuil pour tout le peuple. » Car en ce jour, le peuple entendrait dire « Le roi est affligé à cause de son fils. » Encore une fois, quand on prend les choses entre nos mains, au lieu de faire la volonté de Dieu, même nos victoires deviennent peut-être corrompues dans cet exemple-là. Ce n'était pas la victoire que David avait prévue, mais il pleure au lieu de se réjouir. Donc, nous avons maintenant au chapitre 19, la traversée du Jourdan. C'est une sorte de rencontre, de retrouvaille. Et donc, Dieu a intervenu dans plusieurs façons aussi. Il y a plusieurs détails. Mais 2 Samuel 19 et le verset 9. Et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation, disant « Le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis, c'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins, et maintenant il a dû fuir du pays devant Absalom. Or Absalom, que nous avions point pour qu'il règne sur nous, est mort dans la bataille. Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi ?» De son côté, le roi David envoyait dire « aux sacrificateurs, Sadoc et Abithar, parlez aux anciens de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison? » Donc, il y avait des contestations, c'est sûr, mais ça démontre jusqu'à quel point la séduction d'Absalom a réussi. Il s'est installé pour ces personnes comme roi sur Israël. Donc, au verset 15, quelques versets plus loin, nous avons le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain, et Juda se rendit à Gilgal afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Donc, ici, c'est contesté le trône et David décide, il est l'heure de rentrer et Dieu l'a permis avec son intervention, avec vraiment beaucoup de patience de la part de David. Et donc nous observons qu'un homme qui agit correctement, un homme qui agit ici avec justice, a reçu l'intervention de Dieu, et a reçu une bénédiction qui était une intervention de Dieu. C'est Dieu qui a assuré la victoire pour David. Il y a toujours la dissidence, ceux qui vont contester, ceux qui vont dire « Non, notre tribu devrait régner, nous sommes plus nombreux que vous. » Mais David s'appuie sur la loi des tribus du premier-né et de l'importance de Joseph. Et il agit avec justice, et la main de l'Éternel est tellement claire dans ce qui s'est passé. Mais ça ne veut pas dire que ces jours terminent avec, avec des couchers de soleil et avec des pieds levés avec beaucoup de calme. Mais Dieu a travaillé avec cet homme, et Dieu a travaillé avec cet homme malgré ses faiblesses. Il a travaillé avec lui malgré les personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui, malgré les contestations, malgré ses propres fils qui n'étaient pas justes. Et il a continué à travailler avec David parce qu'il avait fait des promesses à Abraham qui jouait sur le roi David et puis celui qui serait issu du roi David éventuellement. Considérons maintenant Actes chapitre 13. Nous avons un exemple ici de jusqu'à quel point cet exemple de David est confirmé comme un bon exemple malgré ses faiblesses. On peut penser beaucoup aux faiblesses de David, on peut penser beaucoup, mais quand on examine, quand on fait une analyse de cette relation entre David et l'Éternel, nous avons quand même plusieurs exemples pour nous dire que lui, il mettait sa vie entre les mains de l'Éternel. Et sa confiance était dans l'Éternel. Donc, Actes chapitre 13, verset 23. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour voir David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, comme homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël, et lorsque Jean achevait sa course, il disait « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui dont je ne suis pas digne de dénier les souliers. Un frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. » Les prophètes de l'Ancien Testament, bien sûr. Et ça continue plus loin aussi, cette relation entre Jésus-Christ et l'exemple de David. Verset 28. Quoi qu'il n'ait trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Donc, quand nous lisons ces versets ici, nous pensons à Ésaïe 50, 51, 52, 53, ces passages qui sont prophétisés pour Jésus-Christ et comment il a réagi. Et puis, donc, presque, on est en train de citer Ésaïe ici. Puis verset 30, « Mais Dieu l'a ressuscité des morts,
il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David et ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton saint envoie la corruption. » Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez rien être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez-vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la raconte. Et donc, on voit ici ce résumé de la prédication de Paul, ici, et on voit la résumée qui comprend aussi l'exemple de David, mais l'exemple de David maintenant est remplacé par Jésus-Christ. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que nous aussi, nous sommes capables de considérer l'exemple de David, mais notre exemple ultime se trouve pas dans un homme de saint, mais dans un homme qui a vécu une vie parfaite, sans péché, et qui est mort pour nous tous lorsqu'on était encore pécheurs. C'est ça la grande différence entre l'idée de regarder la vie de David et l'idée de regarder la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous profitons aujourd'hui pour voir comment David a réagi dans ce moment difficile, mais combien de fois les choses que je vous ai soulignées, est-ce qu'ils ont apparu dans la vie de Jésus-Christ aussi? Combien de fois son caractère a été justement dans la même pensée, d'après les mêmes pensées que David dans sa vie, lorsqu'il rencontrait cette révolte en Israël. Combien de fois nous sommes capables de regarder l'exemple de Jésus-Christ et d'apprendre comment faire face à cette vie devant nous, comment faire face à nos épreuves. Nous, en fait, une autre façon de dire faire confiance en Dieu, c'est d'avoir la foi en Dieu, n'est-ce pas? D'avoir la foi, de croire à Dieu et de croire que ses promesses, il va les accomplir. Même les promesses qui nous concernent, les promesses pour que lui, il va intervenir pour nous lorsque l'on est dans le besoin, et les promesses pour l'avenir, les promesses qui ne sont pas encore réalisées, que nous attendons avec hâte pour l'arrivée du royaume de Dieu ici sur la terre, le retour de Jésus-Christ en tant que roi des rois. Et donc nous avons Christ comme notre ultime exemple, qui n'a jamais péché, qui a démontré un caractère parfait, un amour parfait, qui s'occupait de ses disciples, qui s'occupait de ceux qui étaient dans le besoin, qui s'occupait de ceux qui ne le croyaient même pas. Il pensait à eux, il regardait, il considérait leur cœur. Même les pharisiens, les scribes, les personnes qui voulaient attaquer Jésus-Christ, en fait, ils regardaient le cœur. Ils ne regardaient pas juste leur position, juste leur vie, mais ils considéraient leur cœur. Donc même quand nous sommes entourés d'ennemis, même quand nous sommes face à des épreuves, mettons-nous notre confiance en Dieu, que ce soit lui qui va nous délivrer. David nous dit que Dieu, soit il va intervenir pour lui, soit il va intervenir pour confirmer que ce n'est pas sa volonté. Et est-ce que nous sommes capables de laisser le choix entre les mains de Dieu, d'intervenir ou pas, d'avoir la patience que ce soit Dieu qui intervienne? Nous avons 2 Samuel 22 maintenant. C'est un cantique qui apparaît dans 2 Samuel. Très intéressant que ce cantique se trouve là. Et dans ce cantique, nous avons une phrase que je voudrais souligner parmi plusieurs qui sont très encourageants. Après toute cette vie de souffrance, cette vie de, même s'il était roi, il a souffert, mais il a vécu beaucoup d'attaques, David s'adresse à l'Éternel. Les paroles de ce cantique, c'est écrit ici au début du chapitre 22, 2 Samuel 22, verset 1. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher. » Il continue, « Où je trouve un abri, mon bouclier. » Pensons à le bouclier de la foi. « Mon bouclier est la force qui me sauve. » Ma haute retraite est mon refuge. Ô mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Ça continue plus loin, et je vais sauter quelques versets pour souligner ici le verset 31. Je vous donne la possibilité d'aller considérer ce cantique, ce passage entier chez vous. Mais au verset 31, nous avons cette déclaration de David. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Donc on appelle ce cantique un cantique de délivrance. Cantique de délivrance. De toutes ses ennemis. Dieu a intervenu. Et Dieu a pu intervenir parce que David a pu réagir par la volonté de Dieu, en attendant que ça soit sa volonté, en demandant que ça soit sa volonté, en développant un certain caractère avec l'aide de Dieu. Et c'est ce que nous sommes capables de faire aussi. Nous sommes capables de faire chaque jour, chaque semaine, chaque année, du progrès pour développer complètement cette confiance en Dieu, pour augmenter notre foi. Et on peut demander, comme c'est écrit dans le Nouveau Testament, « Augmente-moi la foi. » Et donc, « Donne-moi plus de foi. »« Donne-moi plus de force. » Et pour avoir cette possibilité, il faut s'approcher de Dieu. Il faut qu'on se mette aux genoux pour prier. Il faut qu'on commence à parler avec notre Père céleste tous les jours, à écouter, à attendre qu'il réponde et de chercher dans la Bible, dans la parole de Dieu, les réponses à nos questions. Et je sais qu'il peut nous inspirer dans les moments où on a besoin d'entendre sa voix, d'avoir son aide, et il peut nous inspirer et c'est à nous de lui laisser intervenir. Si, encore une fois, si on n'a pas la confiance que Dieu puisse intervenir pour nous, nous risquons de prendre de mauvaises décisions, de prendre de mauvaises actions et de produire de mauvais résultats aussi. Donc, nous sommes encouragés par les psaumes 3 et 4 que nous allons terminer avec maintenant, le psaume 3 et 4. Et maintenant, nous avons le contexte de comment ont été développées ces pensées, comment ont été développées ces psaumes, et pourquoi ils sont tellement importants, non pas seulement pour parler de l'exemple de David, mais pour prévoir aussi, pour prédire, pour prophétiser le caractère parfait, la réponse parfaite et l'exemple parfait de Jésus-Christ. Non, David n'est pas un exemple parfait, mais Jésus-Christ est notre ultime exemple. Et donc, le psaume 3, maintenant, pour commencer, nous allons lire ces psaumes. avec tout ça en tête. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis soient nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Pause. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Pensez à la souffrance de David lorsqu'il sortit de Jérusalem avec tous ses capitaines et les personnes qui l'accompagnaient, réfléchissant au fait que ses idées, que ses pensées étaient dans son cœur à ce moment, justement. Et puis, il continue, de ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Au chef des chantres, verset 1 du psaume 4, avec instrument et accord, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Ah voilà, confiez-vous en l'Éternel. C'est là la phrase. Verset 7, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Quand abondent leurs froments et leurs mous, je me couche et je m'endors en paix. Par toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Donc, frères et sœurs, nous savons maintenant, nous avons fait une petite étude sur d'où viennent ces cantiques ici, ces psaumes. D'où viennent ces pensées du cœur de David? Quels sont les événements de la vie de David qui ont produit ces pensées, ces cris vers l'Éternel, ces demandes auprès de lui? Est-ce que nous avons des situations dans nos vies qui produisent les mêmes types de pensées? Est-ce que nous sommes prêts à s'agenouiller et demander à l'Éternel son intervention dans les moments les plus difficiles? Je suis convaincu que nous le faisons déjà, que nous y sommes déjà familiarisés. Mais je voudrais aujourd'hui vous laisser avec cet exemple de David qui, en fait, nous aussi nous oriente vers l'exemple de Jésus-Christ, notre ultime exemple. Et ça se résume en ça. Confiez-vous en l'Éternel.